Cette portion de la parole de Dieu est enregistrée et distribuée par l'Église, grâce et vérité. Jésus promet à ses disciples, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Nous prions que vous soyez bénis et rendus libres par notre Seigneur Jésus-Christ au moyen de ce message. Bonne écoute!
Hey, bonjour tout le monde! En pleine forme ce matin. Hey, c'est vrai que on a deux bons soleils ici, là, je te comprends. Je ne sais pas s'ils ont nettoyé ou quoi. Il me semble qu'ils sont plus fortes qu'à l'habitude, hein, Sébastien? Bonjour tout le monde. Bon matin, content d'être avec vous. On va tout de suite commencer avec notre bonne étude. Je prendrai la première image. Excellent. Donc, on est dans notre mini-série sur Jacques et on va voir Jacques 2, 1 à 13. Jésus a dit, « Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, quel mérite avez-vous? Les publicains n'agissent-ils pas de même avec leurs semblables? » Et on a tous cette tendance naturelle de se tenir avec des gens dont on aime la compagnie, des gens avec qui on sent bien. Et on a aussi cette tendance naturelle de s'éloigner ou de limiter nos interactions, notre temps avec ceux qu'on aime moins. Et je crois que aujourd'hui dans la société, puis je pense que c'est vrai de tout temps, ce qu'on recherche le plus, c'est des relations humaines significatives, des gens qu'on sent qu'on peut être nous-mêmes, qu'on est bien, qu'on peut parler, qu'on sent écouter, on peut partager, puis on s'assure dans la relation que ça va dans les deux sens, que on aime écouter ces gens-là, on s'intéresse à eux, on se sent compris. On cherche des relations significatives, des relations bénissantes, bénéfiques dans le foyer. On espère qu'on va l'avoir dans la famille. Hein? On dit toujours qu'on ne choisit pas notre famille. Au travail, dans notre voisinage. Ces relations-là vont nous faire du bien et on devrait les rechercher, on devrait les vivre encore plus où? Dans l'Église de Jésus-Christ. Et s'il y a un endroit où on doit s'attendre à ce genre de relations, c'est bien dans l'Église. Mais il y a un danger dans l'Église, c'est de chercher principalement la compagnie de ceux qui vont nous faire du bien. Et ce matin, on va voir le sujet du favoritisme. Et Jacques va nous présenter une situation où une préférence sur la base d'un critère avait cédé la place au favoritisme. On va commencer par lire le verset 1. On va travailler fort ce matin. On va lire 13 versets. Donc, on va commencer par 1. Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de toute acceptation de personnes ou encore dans certaines versions de tout favoritisme. Donc ici, c'est que sur la base d'un critère, d'une caractéristique, on choisissait d'avoir une attitude différente face à une personne par rapport à une autre. Donc c'est ça le favoritisme. On peut dire j'aime les barbus ou j'aime pas les barbus. On peut dire j'aime pas les anglos ou j'aime pas les francophones. On peut dire telle personne, les gens qui sont comme ça, ça j'aime, puis j'aime moins ou j'aime pas du tout telle autre chose. Donc ici, le principe, la vérité qui est énoncée dès le départ, c'est ne fais pas de favoritisme dans notre foi chrétienne. Ce n'est pas une pratique, ce n'est pas une valeur de dire « Maintenant que je suis au Seigneur, dans la pratique de ma foi, je vais aimer lui et je n'aimerai pas l'autre. » Jacques nous dit qu'une telle attitude ne doit pas se présenter chez un frère. Et j'aime la façon que rend la parole vivante. Je suis un maniaque, je suis un amoureux de la parole vivante. Des fois, quand il y a une phrase là, que je trouve dans le Nouveau Testament là, qui est belle, qui est bonne, oh, hey, ça, je vais aller voir dans parole vivante. Ici, ça dit, la façon qu'il l'a rendu, notre foi est inconciliable avec une attitude partiale inspirée par des préjugés de classe. Et si Jacques dit aux frères de ne pas avoir une telle attitude, c'est justement parce qu'il y en avait. La discrimination ne peut pas être associée à une foi en Jésus-Christ parce que ça contredit notre foi. Une telle pratique n'est pas à la mesure de la foi que l'on professe. On continue? On va lire trois autres versets. Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre misérablement vêtu. Et si, tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites, « Toi, assieds-toi ici à cette place d'honneur. » Et si vous dites au pauvre, « Toi, tiens-toi là debout, ou bien assieds-toi au-dessous de mon marchepied. » Ne faites-vous pas en vous-même une distinction et ne jugez-vous pas sous l'inspiration de pensées mauvaises. Jacques, ici, illustre son point. Il dit « supposer hein? ». Il dit bon, « on va mettre une situation ». Jacques n'était pas présent dans toutes les églises de la diaspora, les églises juives, mais il entendait, on lui faisait des rapports des problèmes qui se vivaient. Et il connaissait très bien les églises. Et le favoritisme n'était pas un exemple pris au hasard, c'était un réel problème. Et le pauvre, à cette époque-là, c'était pas les pauvres. On sait qu'avec l'inflation puis la COVID, il y a vraiment des gens qui sont pauvres au Québec avec l'augmentation des... Donc, oui, on est pauvre. C'est pas pour minimiser la situation en 2022. Mais les pauvres, à cette époque-là, dans Jacques 2,15, ça dit « Nu, si tu vois ton frère nu et manquant de la nourriture de tous les jours. Hein, » ça met une coche au-dessus de notre pauvreté. On sait, je vous le dis depuis quelques semaines, que la pauvreté était le contexte de toute l'épître de Jacques. Ces croyants juifs-là qui étaient dispersés à l'occasion de la persécution d'Étienne, ils étaient des étrangers. Ils pouvaient être riches quand ils étaient à Jérusalem, quand ils étaient en Judée, mais tout à coup, là, ils sont obligés de partir, puis ils ne traînent pas leur compte de banque avec leur carte de crédit qu'ils mettent dans le guichet, là où ils sont rendus. À cause de ça, ça donnait la crainte des riches. Ils étaient à la merci des riches. Une peur à cause de leur influence et de leur puissance. Donc, ils cherchaient à plaire aux riches ou du moins à gagner un peu leur faveur pour espérer avoir un petit peu de soutien. Dans le passage, le niveau de vie du pauvre et du riche nous est décrit... par les vêtements, hein? C'est intéressant, le contraste est frappant. Les riches avaient des habits magnifiques. C'était des habits pour les dignitaires, des habits pour les grandes occasions, hein? Avec un anneau d'or. Tout était là pour... Tout de suite, quand tu le voyais, tu disais, lui, il a de l'argent. Ça, c'est une famille de riches. Comment on va agir? Hein? On va essayer de tomber dans ses bonnes grâces. Pour le pauvre, misérablement vêtu. Et ça désigne un habit de clochard, de mendiant. Donc, si tu étais riche, on te déroulait le tapis rouge en rentrant dans l'église. On te traitait avec honneur. Assieds-toi à cette place d'honneur, on va te donner la meilleure place. Mais si tu étais pauvre, hein, on te disait, va-t'en, s'il y avait un escalier que... Il n'y a pas de place, puis ben tu sais, en dessous de mon marchepied, va-t'en en dessous de l'escalier, là, toi, là, va-t'en en arrière, on ne veut pas te voir, puis on ne veut pas prendre soin de toi. On te méprisait, on te donnait ce qu'il y avait de moins bon. La discrimination se voyait autant au niveau des attitudes que des actions. Et là, on peut se poser la question dans la situation qu'il vivait. Est-ce que c'était mal de traiter le riche avec respect? Pas vraiment. Est-ce qu'il le méritait? Non, pas du tout. Mais Dieu nous appelle à rendre le bien pour le mal, à avoir un peu de miséricorde. On peut la regarder et dire, toi, je sais comment tu traites tes employés, puis... t'ambitionnes de la misère des gens, puis tu donnes des salaires de crève-faim. Hein? Dans Jacques 5, ça dit que Dieu a entendu les cris des salariés qui est monté jusqu'à moi, puis le salaire dont tu les as privés. Donc, est-ce que c'était mal de les traiter avec respect? Non. Ce qui était mal, c'était de ne pas traiter le pauvre de la même façon. Parce qu'il était pauvre, de faire une différence entre les gens. La discrimination se fait sur la base de la richesse, pauvre ou riche. Et pour nous, si on l'applique dans notre société, dans notre vécu, on va avoir de la discrimination entre des frères, entre des sœurs, sur d'autres critères. Ça peut être selon son rang social, sa situation financière. Je me souviens toujours que quand j'ai accepté le Seigneur en 1983 dans une grande assemblée, on était 250, puis en dedans de 3-4 années, on était 500 à Québec dans la salle. Fait qu'il y avait beaucoup de monde, il y avait une assistance, et je me souviens comment les docteurs étaient mis en valeur, hein, tu sais, puis on donnait toujours le titre, puis le docteur, puis on l'invitait, puis on le mettait en honneur, puis de traiter quelqu'un avec honneur, il n'y a rien de mal, mais ceux qui étaient des petites gens, tu sais, on cherchait moins à souligner leur présence. Quelle est notre perception du rang social, de la situation financière? Quand quelqu'un est depuis plusieurs années sur l'aide sociale, même pas capable de travailler pour avoir du chômage, est-ce que ces gens-là sont moins intéressants à fréquenter? Est-ce qu'ils n'ont pas un prestige qui fait qu'on a le goût de se coller sur eux autres, de dire « Ah oui, moi, c'est un de mes bons buddies, le docteur que le pasteur n'arrête pas de mettre en honneur, hein, son honneur, et je m'associe à ça. » Est-ce qu'on dit « Ah, eux autres, ce n'est pas des gens qui se prennent en main, sont instables. » J'espère que non. On ne sait jamais quand... Le mauvais sort va s'acharner sur nous, les circonstances défavorables, et que là, on va comprendre, je jugeais ces gens-là, mais j'avais aucune idée de ce qu'ils vivaient, puis je pensais que c'était juste à cause de mes bonnes qualités, mais vous savez, des situations au niveau de l'emploi, au niveau de la santé, au niveau de la famille, des coups durs qui nous déstabilisent, ça peut arriver à tout le monde. Si nos actions et nos attitudes sont différentes selon le rang social de la personne, on a un problème. Ça peut être au niveau d'avoir les mêmes goûts, les mêmes intérêts, les, les mêmes pensées? Est-ce qu'on se montre enthousiaste, chaleureux, accueillant envers ceux qui pensent comme nous, qui ont les mêmes intérêts, et un peu plus froid puis distant envers ceux que leur style de vie nous attire moins? Et vous savez, ici, il n'y a rien de mal d'avoir des amis intimes, d'avoir des gens qu'on peut se confier, qu'on est plus proche. Puis ça, là, c'est une bénédiction d'avoir des amis proches. Et c'est pas question de dire, écoute, il faut que tu passes le même temps avec tout le monde puis que tu sois aussi proche que tout le monde. Non, c'est pas ça ici ce qui est en jeu. Ce qui est mal, c'est de créer une barrière autour de nous et de se tenir seulement avec notre petit groupe d'amis intimes et surtout de faire sentir aux autres qu'ils ne font pas partie de notre vie et qu'on n'a pas d'intérêt envers eux. Dieu ne veut pas qu'une église locale soit un paquet de petites cliques. Il désire qu'on soit ouvert les uns aux autres. Il veut qu'on démontre un intérêt, un amour, une ouverture envers ceux qu'on connaît moins, envers ceux qu'on sent moins attirés. Dieu veut que notre cœur soit ouvert à tous. Parfois aussi, ça peut être sur énormément de critères. Ça peut être sur la conception de la vie chrétienne. Il y en a que la vie chrétienne, ils ne voient pas ça de la même chose, que de la même façon que nous. Des fois, on leur entend dire des déclarations, puis ça nous fait sursauter. Voyons donc, ils croient tout ça par rapport à la façon de vivre notre relation avec Jésus. Hey, le premier, des fois, j'entends des choses. Ouh, on est loin, on n'est pas pareil. Quelle est notre attitude à ce moment-là? Certains sont plus larges, d'autres sont plus étroits. Certaines vont avoir des croyances, puis tu vas rencontrer ces gens-là 15 ans plus tard, ils vont avoir totalement changé. Tu te dis, hey, je les ai jugés, puis je les ai mis de côté, mais ils sont ouverts, ils ont évolué, puis ils ont avancé. Également, c'est de croire d'une façon orgueilleuse que notre façon de voir la vie chrétienne, notre façon de penser, que nous, on l'a l'affaire. Donc, tous ceux qui sont plus fermés sont trop fermés, puis ceux qui sont plus ouverts, plus permissifs, sont tard. Nous aussi, dans 15 ans, on va se regarder en arrière, on va dire, « Ouais, sais-tu que les gens pouvaient me regarder et dire, il est spécial, Richard, ou il est sévère, il est exigeant, il est intransigeant. » Nous aussi, on change. Donc, on a besoin d'avoir de la grâce, d'être miséricordieux envers tout le monde. Ici, ce que ce passage nous enseigne, c'est de ne pas avoir de mépris envers ceux qui ne pensent pas comme nous et qui ne vivent pas comme nous. D'accepter les différences, d'accepter les frères, les sœurs avec leurs faiblesses, avec les petites choses qui nous dérangent, hein? Puis j'aimais bien cette image-là. Quand on regarde les deux, hein, tout de suite, on associe un statut social, puis c'est un ingénieur, mais il n'y a pas l'apparence. Comment l'apparence nous dérange? Et de tout temps, l'apparence a toujours dérangé, parce que on n'a pas le temps de connaître qui est vraiment une personne, puis on est à une ère de l'instantané. Donc, si on veut avoir une information sur une personne, qu'est-ce qu'on fait? On le regarde. Oui, on regarde son profil Facebook. Puis on regarde l'image qui nous projette, puis là, on se fait une idée. Peut-être qu'on va plus loin que l'image. On dit, je vais parler avec. Je vais l'écouter. Oh! Déjà, on se fait une image très rapidement. Il ne parle pas. Il n'a pas l'air à avoir un beau sourire. Il n'a pas l'air si content que ça de me voir. Quand j'étais jeune pasteur et l'importance d'être grand, hein, pour être vu, hein, c'était le syndrome de Saül. Un pasteur s'est fait dire qu'il était toujours resté dans des églises moyennes, modestes, 150, 200. Il disait qu'il manquait 4 pouces pour être un pasteur de 10 000 personnes. Là, il n'en jetait pas assez. Et je pense qu'on a passé là, 30 ans, 40 ans plus tard par-dessus ce critère-là. Mais de juste se fier aux informations qu'on a, qu'on voit, et de faire un jugement, et dans ce jugement-là, de décider que cette personne-là, on n'aura pas le respect de base, on n'aura pas la considération, de dire, écoute, c'est un frère, c'est une sœur, et dans mon église où je le côtoie, je veux lui donner cet amour de base. C'est un enfant de Dieu, c'est son identité, comme on chantait. Puis à cause de ça, Dieu m'a accepté comme j'étais, puis moi, je veux avoir cette acceptation également. Notre passage continue, hein? On s'est reposé de lire nos versets, on continue. Verset 5. Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritier du royaume qu'il a promis à ceux qu'il aime? Et vous, vous avilissez le pauvre. Ne sont-ce pas les riches qui vous oppriment, qui vous traînent devant les tribunaux? Ne sont-ce pas eux qui outragent le beau nom que vous portez? Et là, Jacques amène les chrétiens à réfléchir, puis il va leur dire que c'est un comportement insensé, c'est opposé à la réalité. Vous faites du favoritisme sur la base de la richesse, mais ça n'a pas de bon sens, ça ne marche pas. Il donne deux arguments. Le premier argument qu'il donne, il dit que c'est contraire au choix de Dieu. Dieu choisit les pauvres, puis vous, vous rejetez les pauvres. Dieu a choisi intentionnellement les peu fortunés, les peu puissants, pas les grands de ce siècle. Hein? Vous connaissez 1 Corinthiens 6, 29 à, 26 à 29 qui dit « Considérez que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a pas un grand nombre de puissants et de nobles. Dieu choisit les choses faibles du monde, les choses viles, celles que l'on méprise. » Dieu, dans sa sagesse, l'a voulu ainsi. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des riches, des puissants à l'occasion qui ont un cœur sensible, qui, malgré leurs avoirs, sont capables de considérer leur état spirituel puis de dire, « Seigneur, je viens à toi. » Mais c'est l'exception. On est pauvre aux yeux du monde, mais aux yeux de Dieu, on est riche, on est important. Et on ne peut pas traiter avec mépris sur la base de l'argent. Sinon, on dit oui aux valeurs du monde. Et ici, ça dit que les riches, hein, et le verbe avilir, abaisser, déshonorer, mépriser, les riches, ils nous regardent de haut. Puis les chrétiens, à cette époque-là, ils étaient vraiment à la merci. On ne peut pas aller à l'encontre du choix de Dieu dans son Église. Dieu a décidé de sauver des gens pauvres, des gens en besoin, des gens qui sont humbles d'esprit, qui réalisent leur misère puis qui viennent à Jésus. On devrait honorer ces gens-là avec le cœur qui s'est laissé convaincre par le Saint-Esprit. Donc, il n'y a aucun jugement, aucun mépris à avoir. Dieu ne changera pas ses valeurs ni son choix. Il y a de la place pour le pauvre, pour le misérable, pour le petit dans l'Église de Dieu. Ça veut dire qu'il y a de la place pour tout le monde. Ça veut dire qu'il y a de la place pour moi, parce que quand on regarde chacun notre situation personnelle, il y a vraiment des aspects où on a les mains vides, on dit, « Seigneur, moi, je suis un pauvre. Je suis peut-être pas pauvre financièrement, merci Seigneur, mais à bien des aspects, là, j'arrive devant toi et j'ai les mains vides, j'ai rien pour me glorifier. » les gens autour de nous ne changeront pas pour nous faire plaisir, pour ne pas nous déranger. C'est à nous à changer. Quand il y a des gens qu'on... C'est un peu comme quand on mange la crème glacée, puis qu'il y a une dent qui nous fait mal. Là, qu'est-ce que ça dit, ça? Il y a un problème avec la dent. Donc, si on est dans l'église, puis qu'il y a des gens qu'on dit, lui, je ne suis pas capable. Lui, oh non, j'aime autant pas lui donner la main. Puis c'est pas la personne qui a le problème. Hein? C'est nous de dire, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a en moi qui fait qu'en regardant cette personne, ce frère, cette sœur, que ça provoque telle attitude? Hey, j'ai un problème avec ma dent. J'ai un problème avec mon cœur. C'est moi qui ai le problème. C'est pas la crème glacée parce qu'elle est froide. Il y a tellement d'exemples aux États-Unis dans les dernières années, puis où des églises évangéliques qui ont la même foi que nous, ils ne veulent rien savoir des personnes qui ont la peau noire dans leur assemblée, puis ça existait dans les 30, 40 derniers, puis il y en a qui sont encore là. Il y a tellement de témoignages. Une église à Toronto qui, le pasteur voulait avoir des gens de couleur, puis l'église, traditionnellement, elle ne voulait pas, puis elle résistait. Puis le pasteur, tranquillement, doucement, il a tenu son bout. Et ils ont eu une explosion et ils sont reconnus pour avoir 8 différentes communautés ethniques. Et quand Jésus a dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples », le mot pour nation, c'est « ethna », d'où on a « ethnie ». « Ethnie », ça veut dire des gens qui ont une culture, une langue, peut-être des caractéristiques physiques différentes des tiennes, puis qu'on peut dire « eux autres, ils forment un groupe ». Ils forment un groupe différent du nôtre, qui fait que je suis mal à l'aise, je les trouve bizarres, j'aime mieux m'éloigner que me joindre à eux. Jésus a dit, on va respecter les caractéristiques des gens, puis vous allez atteindre ces nations-là, ces ethnies, en les respectant. Un vrai missionnaire, il dit, c'est moi l'étranger, je m'en vais vers vous, puis... Je ne veux pas être mal à l'aise. C'est vous que j'accepte. Merci d'accepter d'être mal à l'aise avec moi. Puis moi, je veux vous connaître. Je veux vous accepter. D'accepter les différents. Donc, c'est contraire. C'est pas logique de faire ça parce que c'est contraire au choix de Dieu. Ah, vous ne l'avez pas celle-là. Et la deuxième raison, c'est contraire à la logique. Pour quelle raison est-ce qu'ils étaient si gentils envers les riches? Parce qu'ils leur donnaient de l'argent? Non, les riches ne donnaient pas l'argent. Ils étaient riches parce qu'ils gardaient leur argent. Parce qu'ils étaient la base de l'économie, ils investissaient puis ils procuraient de l'emploi. Non, c'était pas pour ça qu'ils étaient gentils. Parce qu'ils étaient justes et bons? Non. Dans Jacques 5, ça donne un portrait du riche qui dit qu'ils étaient des voleurs. Hein? C'était des richesses mal acquises. Ils se vautraient dans la volupté, dans la méchanceté. Et ils condamnaient, ils traînaient les pauvres devant les tribunaux. S'ils avaient accumulé des dettes, hein? Ils disaient, tu vas me payer, sinon tu vas aller en prison. Donc Jacques dit, je comprends pas, expliquez-moi, c'est illogique. Les riches les opprimaient, ils les exploitaient, c'était des tyrans. Ils les attaquaient devant la justice. Ils outrageaient même le beau nom que vous portez. Et là, on peut se poser des questions. Les riches qui rentraient dans l'église, est-ce que c'était des chrétiens? Est-ce que c'était des croyants? Et les pauvres qui étaient là dans l'église, est-ce que c'était des croyants, des enfants de Dieu ou c'était des visiteurs? Et il y a des bonnes chances que le visiteur qui venait, qui était riche, qui n'était pas un membre de l'Assemblée, que lui, on le traitait avec honneur. Ça se peut qu'il y en avait aussi qui étaient des frères en la foi. Mais il est aussi fort probable que ce n'est pas des visiteurs non-croyants, pauvres, qui étaient maltraités. C'était des gens, « Oui, oui, je suis un enfant de Dieu, je suis ton frère, je suis ta sœur. » Le fait que c'est contraire à la logique. C'était celui qui fait le mal. Ça me faisait penser à l'image, quand j'étais jeune à l'école primaire, surtout quand on était dans le cours de la récréation. Hein. De qui on avait peur dans le cours de récréation? Le bum, là. Lui, on sait qu'on l'avait vu prendre quelqu'un, le mettre dans une poubelle. Là. Tu sais, on avait des grosses poubelles, là, des gros galons. Puis, lui, s'il passait à côté de nous autres, puis qu'est-ce qu'on faisait avec lui? On essayait d'être gentil. « Oh, excuse-moi! » Puis celui que on avait tellement peur que celui qui était plus faible que nous autres, puis qui était... lui, comment on agissait? « Ouais, t'assois de là, hey, donne-moi le ballon, ouais, ouais. » On n'avait pas d'égard envers le pauvre, envers le plus faible, parce que si on défendait le plus faible, ben, peut-être qu'on allait se faire attaquer avec lui, donc on disait « Je te connais pas. » Mais celui qui était fort puis qui intimidait tout le monde, hey, on se tenait tranquille, puis on disait « Oui, 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 tu sais, puis... » Mais c'est contraire à la logique. C'était comme ça dans l'Église de Jésus-Christ. S'il y avait du temps de Jacques, avoir un sentiment un petit peu d'hostilité, de dire « Écoute, toi, je sais ce que tu fais, comment tu voles, t'opprimes, tu t'en prends aux chrétiens, tu t'en prends aux pauvres. C'est envers toi que je vais avoir une attitude hostile. » Donc, c'était contraire à la logique. Quand on fait de la discrimination, peu importe les raisons, c'est pas logique, c'est pas sensé, c'est pas comprenable et explicable dans le regard de Dieu. Faire du favoritisme, c'est déclarer que les autres doivent être comme moi je le désire. Et s'ils ne répondent pas à mes exigences, à mes critères, je vais avoir une attitude froide et distante. Ces gens-là n'auront pas droit à ma gentillesse. Ces gens-là n'auront pas droit à mon accueil, à l'amour que je manifeste envers ceux qui me plaisent. Encore dernièrement, dans des rencontres, j'entendais une personne qui était quand même assez dure, qu'on a eu plusieurs épisodes où cette personne-là pète les plombs. Et cette personne-là, spontanément, elle a dit, « Moi, je suis vraiment une bonne personne. Moi, je suis prêt à tout donner. Dans mon camping, j'ai fait une levée de fonds. Je suis allé voir, j'ai ramassé 1 500 $. Je suis vraiment une bonne personne. » Et tout le monde, on savait pas quoi dire. Mais elle dit, « Il y a juste une chose. S'il y a quelqu'un qui me pile sur un gros orteil, ben là, elle va le savoir. » Et cette personne-là, dans sa vie, a tendance à décider qui elle va respecter et qui elle va traiter avec respect. Et à partir de certaines relations, choses qu'elle n'a pas appréciées, cette personne-là va vraiment jeter toute sa fureur. Et je regardais ça, je me disais, j'aime pas ça, là. Mais on est tous un petit peu de même. Hein? Peut-être qu'on jettera pas toute notre... fureur, mais nos jugements et notre froideur. Et là, on fait de la discrimination. La solution au favoritisme. Si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous faites exception de personne, vous commettez un péché, et vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. Car quiconque observe toute la loi mais pèche contre un seul commandement devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit « Tu ne commettras point d'adultère » a dit aussi « Tu ne tueras point ». Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Et j'aime tellement ce verset 12 et 13. Parlez et agissez comme devant être jugé par une loi de liberté. Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Et la solution, c'est aime tout le monde. Et ça parle de la loi royale. C'est comme l'enseignement qui est roi. Tu sais, c'est comme une carte au jeu. Que ça, c'est la carte maîtresse. C'est la carte qui ouvre toutes les portes, la plus importante. Et cette loi-là qui est au-dessus, c'est d'aimer ton prochain comme toi-même, d'aimer les gens comme Jésus nous a aimés. Est-ce qu'on aime tout le monde? Non. Est-ce qu'on a cet amour en nous? Non. Est-ce que ça peut être difficile de ne pas avoir de préjugés? On a toutes des pratiques, on a toutes des valeurs, on a tous des façons de penser qui fait que c'est difficile avec d'autres personnes. Et ça, on l'accepte et on se condamne pas pour ça, puis le passage nous condamne pas. C'est humain, c'est normal. Ce qui est mal, c'est de croire qu'on peut manquer de respect et de considération. C'est mal parce que c'est un manque d'amour pour nos frères, nos sœurs et pour notre prochain en général. L'exemple qui nous est donné ici, que si on observe toute la loi, hein, on peut prendre les 10 commandements ou toutes les autres, si on observe toutes les lois, mais qu'on observe juste un qu'on n'observe pas, ben on est coupable. Ce que le passage veut nous dire, c'est que si sur 10 personnes, j'en aime 9, hey, c'est bon, j'ai 90%, j'aime 9 personnes sur 10, dans un groupe de 50, j'en aime 45, il y en a 5 que je ne suis pas capable de sentir, puis je passe à côté, puis hey, je suis bon. 90% de moyenne, 45 sur 50. Mais si tu n'aimes pas la 10e personne, si tu n'aimes pas les 5 parce qu'elle est pauvre, parce qu'elle ne pense pas comme toi, elle n'a pas la même perception de la vie chrétienne, face à la loi royale, tu aimeras ton prochain comme toi-même, bien, le passage nous dit que tu es coupable. Le favoritisme aux yeux de Dieu est un péché, c'est mal. C'est la transgression de la loi de la liberté. Et ce n'est pas une simple question de préférence, dire ça clique pas, sa face ne me revient pas, on s'aime de loin, puis c'est bien correct de même. Le passage veut mettre l'accent sur le fait qu'on ne peut pas dire j'aime Jésus, j'ai de l'amour pour ceux que j'ai décidé d'aimer, mais c'est acceptable de volontairement, intentionnellement, de ne pas aimer certaines personnes et de dire je suis en règle avec Dieu. L'exemple ici nous démontre que si on observe toute la loi, mais qu'on pêche contre un seul commandement, on est quand même coupable. Quand je m'en venais sur la voiture, en voiture sur la route, si je m'étais fait arrêter puis que je roulais à 122 au-delà des limites, si l'agent de police m'intercepte puis que je lui avais dit « Mais monsieur l'agent, vous savez, j'ai bien fait tous mes stops, J'ai pas passé sur la jaune. J'avais ma ceinture. Je n'ai pas pris mon cellulaire pour répondre ou lire un texto ou pire, en composer un. Je n'ai jamais fait ça. Je ne sais pas comment ils font. L'agent de police m'aurait dit, « Mais monsieur, c'est pas pour toutes les bonnes choses que vous faites que je vous arrête. C'est pour la chose que vous avez mal faite. » Et pour le favoritisme, ici, l'exemple qui est donné, c'est la même chose. Si tu observes tous les commandements, mais qu'il y en a un, hein, puis il dit que tu commettes un meurtre, il en a pris un gros, Jacques, dans son exemple, bien, tu es coupable. Et l'exemple, il veut l'appliquer que si tu aimes 9 personnes sur 10, c'est pas parce que tu as beaucoup d'amour envers ces gens-là que tu es justifié de dire, lui ou elle dans l'Église, je suis pas capable et j'ai renoncé, je ne fais pas d'efforts ou je garde pas une attitude positive et ouverte et j'ai pas ce respect de base, cette considération, cette ouverture pour dire, écoute, c'est plus difficile, Seigneur, je le vois, mais je veux faire des efforts et je suis conscient qu'il y a des gens qui peuvent avoir de la misère avec moi, puis ils demeurent respect, puis ils me font un beau sourire, puis ils me donnent la main quand on a le droit de le faire. Donc, c'est ce que ce passage veut nous dire. La solution, c'est la loi de la liberté. Parlez et agissez dans notre conduite, dans tous les aspects de notre vie. Et c'est spécial parce que le passage est quand même assez contraignant. Hein? Ce n'est pas un passage qui met l'accent sur la grâce. Il dit, écoute, il y a un problème, on va le dénoncer. C'est contraire à la logique, c'est contraire au choix de Dieu. Puis, écoute, si tu penses que tu peux continuer à faire du favoritisme, ben non, tu peux pas parce que tu es coupable. Donc, c'est pas dans la grâce, ce passage-là. C'est pas, écoute, il faut que ça vienne du cœur, puis on peut pas forcer à aimer quelqu'un, puis mets ça devant Dieu, puis à un moment donné, il va se passer de quoi. Mais tu sais, il y a un peu de sérieux, il y a un peu d'accusation en disant, tu es coupable. Mais en même temps, c'est la loi de la liberté d'aimer. Dieu, idéalement, veut qu'il se fasse un travail, puis qu'il y ait un élan qui va venir du cœur. La loi royale, la loi de l'amour. Et ici, c'est tellement sérieux que ça nous disait que le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. Ça veut dire que si toi, tu es sévère comme ça, envers les gens dans la vie, ils risquent d'être sévères comme ça envers toi, mais ce qui est sous-entendu, c'est quel jugement qui va être sévère envers nous? Probablement le jugement de Dieu, hein? Puis on sait que pour une condamnation éternelle, Jésus nous a libérés de toute condamnation, donc c'est que Jésus, peut-être au tribunal de Christ, ou quand on va comparaître à notre mort, au tribunal de Christ devant Jésus, qu'il va appliquer la même mesure qu'on a appliquée aux autres. Jésus, d'ailleurs, on dit, on va vous juger avec le jugement dont vous aurez jugé, on va vous mesurer avec la même mesure. Et ça nous dit que ceux qui auront été sévères, intransigeants, qui ont fait du favoritisme, qui ont rejeté des gens, qui ont décidé de ne pas aimer certaines personnes, de ne pas aimer des frères et sœurs à cause d'une faiblesse, d'un manquement, qu'eux aussi, ils vont être jugés sévèrement. Donc, c'est un passage qui nous interpelle. On n'a pas besoin d'avoir peur, on ne veut pas aller dans l'extrême, on veut juste dire, Seigneur, c'est important pour toi, puis je ne veux pas faire comme si de rien n'était, de dire, ah, c'est rien que, c'est ma personnalité, je suis comme ça. Je ne sais pas si vous avez vu le film Into the Wild que j'ai écouté bien trop souvent, mais j'aimais ce film-là énormément. Et quand ils sont dans le désert de la Californie, là, d'Ed, la mer morte, là, qui est dans ce coin-là, pas la mer morte en Israël, la mer salée. Ils vont visiter dans l'histoire une montagne, ils appellent ça la montagne sainte. Et là, il y a un monsieur qui est en pleine forme et qui est assez âgé, là, dans 80 ans et plus. Mais ce monsieur-là, c'est lui qui tient le site et il y a plein un ramassis de toutes plein de choses, mais lui, à la peinture, il n'arrête pas de parler de l'amour, il n'arrête pas de parler de l'amour de Jésus. Il y a plein de versets de 1 Jean, de l'amour de Christ, et c'est probablement un croyant. Et on le voit parler, et ça, c'est ses paroles. Il dit, il est dans le désert, là, il fait chaud à l'année longue. Il dit, tout le monde m'aime ici, et j'aime tout le monde. Je veux avoir la sagesse d'aimer tout le monde, et je suis très heureux. Et là, celui qui est là lui demande, alors vous y croyez à l'amour? Il dit, totalement. Je crois qu'il y a une histoire d'amour pour chaque être humain de la planète. Et lui, sa vie, là, pour le restant de sa vie, c'était de parler de l'amour, et cette place-là existe pour vrai, là, c'est dans le film, mais j'aime tout le monde m'aime, puis j'ai décidé d'aimer tout le monde, puis de transmettre l'amour. En conclusion, la miséricorde, hein? Très important, le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde, c'est simplement d'être bon envers les faiblesses des autres. Avoir de la tolérance envers ces différences qui fait qu'on a de la misère à aimer une autre personne. Passer par-dessus. Ne pas juger sévèrement. Si en faisant du favoritisme, on est sévère envers les gens, sans amour, Dieu nous dit que lui aussi va être sévère dans son évaluation, dans son jugement envers nous. Donc, si on veut ne pas craindre le tribunal de Christ et avoir une attitude ouverte, on se doit d'être tolérant. L'Église, c'est merveilleux. C'est un lieu, c'est un microcosme. On se retrouve parce qu'on a décidé d'être dans la même Église que pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans. Ça allait être notre famille, qu'on allait passer plus de temps avec ces gens-là qu'avec notre propre famille biologique, qu'on allait développer des relations, qu'on allait vivre toutes sortes d'expériences, que des fois, on pense, là, on dit, je devrais-tu aller ailleurs, je devrais-tu changer d'église, aller dans une autre famille, parce que il me semble qu'il n'y a pas d'amour, qu'il manque d'amour, ou je ne suis pas à l'aise. L'Église, c'est tout un milieu de vie, et Jésus, dans son plan, il disait, l'Église, c'est là que vous allez vivre l'amour, c'est là que vous allez vivre le fruit du fait que je vous ai sauvé, que je vous ai aimé et que je suis en train de vous faire grandir dans la maturité à l'image, à mon image, à l'image de Dieu. Dans l'Église, on accepte tout le monde puisque le grand Dieu des cieux nous a accepter en premier. Jésus a fait un miracle incroyable en formant l'Église parce qu'il a formé l'Église avec deux groupes qui se détestaient. Les Juifs puis les Grecs. Les Juifs puis les non-Juifs. On se souvient de l'expérience de Pierre avec Corneille en Actes 10 et 11. Pierre avait été dirigé par Dieu vers Corneille, cet incirconcis, qu'il ne fallait même pas rentrer dans sa maison, encore moins manger avec lui, pour lui annoncer l'Évangile. Et il a cru, Corneille, il a été sauvé, lui et toute sa famille, puis ça l'a ouvert les portes de l'Évangile aux gentils, qui était le terme qui était donné pour les Grecs. Et pour voir l'Église, l'attitude de l'Église en Acte 10 à ce moment-là, quand Pierre est monté à Jérusalem, toute l'Église l'attendait avec une brique puis un fanal. Ils ont fait des reproches et ils ont dit, « Tu es monté chez un inconverti et tu as mangé avec eux. » Et oui, c'était la volonté de Dieu de former en un seul corps des gens qui n'arrivaient absolument pas à rien faire ensemble. Il n'y a maintenant ni juif ni grec. Jésus est notre paix qui, des deux juifs et grecs, n'en a fait un. Car par lui, Jésus, nous avons accès les uns aux autres, au Père, dans un même esprit. Et si Jésus a réussi à faire ça avec des juifs et des grecs, il peut faire la même chose envers nous qui sommes dans la même société au Québec. Oui, on a des différences de personnalité. Oui, on a des arrière-plans, des goûts. Mais Dieu nous demande d'avoir cette ouverture de cœur pour s'accepter les uns les autres. À la base du favoritisme, c'est de faire une différence. Et on en fait tous, on en a toutes des différences. Le Seigneur nous demande de passer cette barrière-là, de ne pas rester dans cet état de confort en disant « J'ai juste décidé de mettre quelques personnes de côté et je me sens bien. » Le Seigneur nous demande cette ouverture, cette humilité. Et que le Seigneur nous montre ceux qu'on aime moins. Ceux qu'on a mis un peu de côté, ceux qui n'ont pas de place dans notre cœur. Tout un passage, on est vraiment interpellé par ce passage. Quand on le lit, là, c'est sévère. Que le Seigneur puisse faire la lumière dans notre cœur. Est-ce qu'il y a des gens qu'on met de côté? Est-ce qu'on fait du favoritisme? Est-ce qu'il y a un type de personne qu'eux, ils n'ont pas le droit à notre respect de base? Ça peut être sur la base d'expériences passées aussi qu'on a décidé de moins aimer, de moins respecter certaines personnes. Le Seigneur Jésus, l'apôtre Jacques, la parole de Dieu nous dit « Aime tout le monde. » Cherche à aimer tout le monde. Aie ce respect, cette considération de base, et il n'y a pas de raison qui est acceptable pour ne pas chercher à aimer qui que ce soit et encore moins les frères et sœurs. On va terminer dans la prière. Seigneur Jésus, tu vois ce qui est humain, ce qui est naturel en nous. Et on veut prendre le temps de le constater. Moi, le premier, chacun d'entre nous, il y a des gens qu'on aime moins. Il y a des gens que c'est plus dur à aimer. Et Seigneur, on ne veut pas rester dans cet état naturel, mais on veut passer à l'état spirituel, où ton esprit fait une différence, où l'amour dont tu nous as aimés nous amène à laisser... à baisser les bras et à lâcher les armes en disant « Je vais arrêter de combattre. » Seigneur Jésus, donne-nous cet amour. Tu dis que c'est à l'amour qu'on a les uns pour les autres que les gens vont voir qu'on est tes disciples, que tu fais une différence dans nos vies. Oui, Seigneur Jésus, merci pour nos amis proches. Merci pour ces gens que tu mets dans nos vies, avec qui on a une grande affinité puis qui ont un impact, un encouragement dans nos vies. Merci pour eux et on veut les garder. Mais Seigneur, donne-nous de regarder un peu à gauche, à droite. Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas accès à notre cœur, des gens qu'on se plaît plus à s'éloigner, des gens qu'on juge, des gens qui, intérieurement, on a rejeté. Seigneur Jésus, on veut aimer tout le monde, spécialement dans ton Église. On te le prie en ton nom. Amen. Amen. Merci.